tous les détails du massacre ont été consignés dans les mémoires du temps. Je peux donc heureusement me dispenser de les renouveler ici. D'ailleurs, je n'en fus point de spectateur. Ils dureront pendant 3 jours. Et je l'écris en rugissant 503 de frissons en finie de ne pas savoir que des Français étaient massacrés par centaines. Les boutiques s'étaient ouvertes, les plaisirs dans toute leur vivacité, l'oisivité dans toute sa nonchalance, toutes les futilités, toutes les séductions du luxe, de la sensualité et de la débauche exerçant paisiblement leur empire. On jouait l'ignorance un peu des heureux auxquels ils n'avaient pas le courage de s'opposer. Il y avait cependant, on me semblait, organe suprême protectrice des lois, des ministres chargés du pouvoir exécutif, une garde sautée et des magistrats, tous ces infortunés qu'on massacrait avaient des amis, des parents, et leur dernier regard non plus se reposer sur ce qui leur était cher. Ils ont péri après d'horribles angoisses au milieu des tourments les plus affreux. Il paraît qu'il périt 200 personnes dans ces 3 jours. Tant de sang versé n'assouvit pas le rage de cet envrisseur. Ils sentaient bien que le massacre des 1200 personnes allait porter l'épouvante d'indignation dans toute la France et dans l'Europe entière. Il fallait donc vaincre à tout prix la fierté nationale et la mauvaise politique des ennemis. Les serviront merveilleusement. Près de 60 000 hommes partiront de Paris pour l'armée au moins de 15 jours. La jeunesse des départements, animée par le patriotisme le plus généreux, ne tentait pas l'exemple de la capitale et bientôt les armées feront tripler. Je n'osais m'enrôler dans un bataillon de volontaires. J'étais signalé chaque jour comme un ennemi de la patrie, c'est-à-dire des révolutionnaires. Les plus indulgents me blâmaient. J'étais une mauvaise tête, une étourdie qui s'était jetée par vanité dans un parti qu'il devait détester. Je vais d'ailleurs signer toutes les pétitions en faveur de la queue. Je m'étais trouvé au château la Tissot. Il n'en fallait pas tant pour être condamné à mort. Ne sachant comment m'éloigner, j'allais consulter un de mes plus chers amis, Bertrand, si honorablement connu depuis par ses talents, son dévouement à l'empereur, et qui est maintenant à Sainte-Hélène. Je m'étais lié avec Louis Chez, le procureur d'Aumancher, où il étudiait les sciences du barreau. Il était destiné par sa famille à remplir un emploi de magistrat dans sa province depuis la suppression des parlements. Ses études étaient sans but. Il fit mieux que moi au lieu de se jeter dans les querelles politiques. Il se confina pendant 18 mois dans une retraite pour étudier les mathématiques avec un esprit juste et une grande ténacité de caractère. Il devait réussir. Il venait de se faire examiner, il était reçu et il allait partir pour Châlons comme élève du génie. Mais mener avec lui était impossible, mais il me conseillait de m'enrôler dans une cour franque. Il me donnait l'adresse du lieutenant colonel Tillier, chargé d'organiser la Légion des Alpes. Quelques-uns de mes amis partageaient ma situation. Nous avons donc, ensemble, chez cet officier, nous étions 5 jeunes bien élevés, jouissant de quelques fortunes, animés du désir de nous battre et avant tout de quitter promptement Paris. Monsieur Delier nous reçut donc très bien. Il nous donna des ordres de route et le lendemain, 7 septembre, nous étions à 5 heures du matin sur les routes de Fontainebleau. Les sacs sur le dos, les bonnets de police en tête, et bien déguisés par une espèce d'habit de matelot appelé Cramagnol. Comment permettre de m'arrêter un pas avant d'arriver à l'armée? J'ai besoin de jeter un regard en arrière sur ma conduite dans ces dernières années. Mon éducation avait été sévère. Les principes que nous faisions là-bas étaient excellents en tout. Jusque fin temps, le spectacle de la corruption avait été soigneusement écarté de moi, mes parents, mes maîtres, tout ce qui m'entourait m'avions offert que des leçons et des modèles de la plus sale morale. À l'époque où toutes les questions politiques feront agiter mon éducation, me préservera des erreurs que l'amour et les passions m'iront alors en crédit. Les ridicules des orateurs de section me sauva de l'envie de les imiter. À la lecture de Montesquieu, j'ai choigné celle de Fénelon, Voltaire, Rousseau, Mably. Mais l'autorité de premier m'imposait. J'aurais pu commettre une mauvaise action en m'accordant, même dans mes discours, de la réserve que cette lecture habituelle doit inspirer à un jeune homme. J'ai donc le bon esprit d'attendre un âge plus mûr peut manifester des opinions politiques et de consulter pour ma conduite, ma conscience et mon cœur. Ces deux guides me retiendront dans les bancs de la raison, de la modestie. Enfin, la révolution m'avait surpris à 20 ans. J'étais née d'ailleurs dans une classe trop obscure pour connaître tous les abus que cette révolution signalait. Je crois cependant avoir fait mon devoir en me prononçant pour les causes royales. Et maintenant que je reviens avec complaisance sur ces sentiments, cependant depuis que j'ai connu les émigrés, je me suis demandé quelquefois ce que j'étais allé faire parmi ces privilégiés qui comptaient au le peuple pour rien, moi qui était né dans le peuple. Si après la victoire, ils m'aurions su gré d'avoir combattu avec eux, si enfin, en supposant que la guerre civile eût éclaté, j'eusse fait une bonne action, déserteur de leur cause sacrée de la liberté en marchant contre mes citoyens et peut-être contre ma famille, je n'ai pas attendu la nouvelle révolution opérée depuis 4 ans pour décider une partie de ces questions contre moi. Je ne savais pas alors tout ce que l'expérience m'a fait connaître plus tard.